Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Josine Kazé.
Nous sommes mercredi 20 juillet 2022. Merci d'être avec nous sur la radio Inzamba Agathe Kakawe. C'est le moment du journal en français dont voici d'abord les principales articulations. Le verdict est tombé hier mardi à Kayanza. Trois policiers présumés dans l'assassinat d'un vieillard la nuit de samedi à dimanche dernier ont écopé des peines allant de l'emprisonnement de 3 ans à la perpétuité. Et puis le personnel de l'hôpital de Moussema de la commune de Outagango en province de Kayanza est mécontent et dit ne pas comprendre pourquoi la direction lui demande de donner par force des contributions pour la construction du palais présidentiel à Gitega. Enfin, le camp des réfugiés de Mulongwe en RDC accueille de nouveau des réfugiés burundais qui avaient été rapatriés volontairement au Burundi. Ils disent avoir vécu beaucoup de situations d'insécurité dans leur province d'origine. Voilà pour le sommaire de ce journal. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous d'information.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Parlons justice pour commencer ce journal. Des peines d'emprisonnement allant de 3 ans à la prison à perpétuité ont été prononcées dans la soirée de ce mardi contre 3 policiers. Ils sont accusés d'avoir participé dans l'assassinat d'un certain Roger Azalimana, âgé de 65 ans et qui était originaire de la colline Gakienge en commune de Gatala de la province de Kayanza. C'était dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Les précisions avec Valérie Mochon.
Au moment de leur comparution ce vendredi devant le tribunal, le procureur a accusé l'adjudant-major Jean Bosco Vanier-Zako d'avoir arbitrairement arrêté samedi dernier un certain Roger Azalimana et de l'avoir mis au cachot alors qu'il n'en avait pas les prérogatives. Au moment des faits, Vanier-Zako accusait la victime de l'avoir attrapé en train de voler des plantes fourragères dans sa propriété d'eucalyptus située sur la colline Gakenge de la même commune. L'adjudant-major Leonidas Nakimazi était accusé d'avoir assassiné son co-détenu à coups de bottines et de menottes. Le procureur a réclamé la prison à vie contre l'accusé. Et pour le cas d'Egide Nibaruta qui a ouvert le cachot pour y placer le présumé criminel, alors que cela ne relevait pas de ses prérogatives, le procureur a requis à son encontre une peine de prison. S'agissant de Jean-Baptiste Vanier-Zako et de Leonidas Nakimazi, ils ont rejeté tous les deux les accusations portées contre eux et ont plaidé l'acquittement. Le caporal-chef Egide Nibaruta, lui, a reconnu sa faute et a demandé la clémence du tribunal. Après la mise en délibéré de l'affaire, le tribunal a condamné l'adjudant-major Leonidas Nakimazi à la servitude pénale à perpétuité. Jean-Baptiste Vanier-Zako, lui, a été condamné à 3 ans de prison ferme et au versement d'une amende de 300 000 francs. Le troisième prévenu, Egide Nibaruta, a lui écopé d'une peine de 3 mois de prison et d'une amende de 5 000 francs. Sachez aussi que les 3 condamnés devront également verser une somme de 21 millions de francs burundais comme frais de dédommagement moral, faute de quoi il est prévu à leur endroit une peine subsidiaire de 35 ans.
Justice, on sait également le docteur Christophe Sahabo qui a été signifié ce mercredi de la décision de son maintien en détention. C'est une décision prise le 13 juillet 2022 par la chambre de conseil près la cour d'appel de Mouha, soit 7 jours après au lieu de 48 heures prévues par le code de procédure pénale. Une violation que dénoncent les hommes de loi. Selon maître Gustave Nyonzima, l'incarcération du docteur Christophe Sahabo revêt un caractère politique. Il rappelle que docteur Christophe Sahabo avait comparu en appel de la chambre de conseil le 8 juillet 2022, toujours en violation flagrante de la loi. Suivez.
Le dossier de l'incarcération illégale du docteur Christophe Sahabo revêt un caractère purement politique et judiciaire s'il au sentier à la violation procédurale de cette affaire. En appel, Dr Christophe Sahabo a comparu en audience devant la chambre de conseil de la cour d'appel de Mouha le 8 juillet 2022 et en violation flagrante de la loi de procédure pénale, la décision qui le maintient encore une fois en détention préventive a été prononcée le 13 juillet 2022, c'est-à-dire 5 jours après les débats en chambre de conseil, au lieu de 48 heures exigées par l'article 157 du Code de procédure pénale. Et l'autre angle d'absurdité juridique réside dans le fait que la dite décision lui a été signifiée le 20 juillet 2020, c'est-à-dire 12 jours après les débats en chambre de conseil, au lieu de 48 heures. Même son de cloche au premier degré, au niveau du tribunal de grande instance de Moura en chambre de conseil, il avait comparu le 6 juin 2022. Et la décision de le maintenir en détention, ce qui est aberrant, a été prise et prononcée le 13 juin 2022 au lieu de 48 heures. C'est-à-dire que cette décision a été prise 6 jours après les débats en chambre de conseil, au lieu de 48 heures, comme c'est exigé scrupuleusement par l'article 157 du Code de procédure pénale. Même la signification lui a été faite 6 jours après. Il s'avère nécessaire que le prévenu Christophe Sahamou, qui est victime de violations procédurales, puisse saisir les instances internationales habilitées pour que justice lui soit faite.
Pour rappel, docteur Christophe Sahamou est détenu dans la prison centrale de Mhimba depuis le 17 mars 2022. Il est accusé des détournements de l'hôpital Kira, alors que des sources concordantes pointent du doigt plutôt une volonté du pouvoir de s'accaparer de cet établissement sanitaire dont l'actionnaire principal est une société privée suisse. Et puis le personnel de l'hôpital Moussema dans la commune Outagansgwa de la province de Kayanza grogne contre une retenue d'argent sur leur salaire sans leur consentement pour des cotisations destinées à la construction du palais présidentiel de Gitega. Ce personnel en fait savoir que le médecin directeur de l'hôpital, je l'ai dit, Ndayizeye, a passé outre les recommandations du chef de cabinet civil à la présidence selon lesquelles ces cotisations seront volontaires et non obligatoires. Plus de détails avec Georges Nimenya.
Les membres du personnel soignant et non soignant de l'hôpital Moussema indiquent avoir été scandalisés de trouver sur leurs comptes respectifs le salaire non complet du mois de juin. Quand ils ont demandé à la direction de la dite institution sanitaire, le médecin directeur Gérard Ndayizeye leur a informé que la somme qui manque était retenue à la source des cotisations pour la construction du palais présidentiel de Gitega. Les membres du personnel s'inquiètent que cette retenue à la source ait été effectuée sans consus préalable de ces derniers. Ils accusent le médecin directeur d'avoir outrepassé les recommandations du chef du cabinet à la présidence qui avait instruit tous les ministères dans une correspondance que les cotisations pour la construction du palais sont volontaires et non obligatoires.
Pour le compte de la construction du palais présidentiel, le président de l'hôpital a passé outre la lettre des chefs de cabinet et des chefs de la République. Et c'est notre petite prime. Et sans consulter personne, il n'y a pas de force de retirer 50 000 francs aux médecins, 35 000 aux infirmiers à zéro, 30 000 francs aux infirmières à 10, 20 000 francs aux infirmières à 3, 10 000 francs aux chauffeurs et 5 000 francs pour les travailleurs. On demande au monsieur directeur, au monsieur chef de district, au monsieur directeur de la province sanitaire, de suivre le docteur ce qui se passe ici à l'hôpital. S'ils ne le font pas, nous allons saisir le ministère.
Il ne demande que la réhabilitation d'aller droit afin qu'il puisse donner des cotisations sans contrainte et coercition. Contacté par la rédaction de la radio Inzamba Gatera Kawe, Dr Gérard Ndayizeye, directeur de l'hôpital Moussema, nous a renvoyé consulter le cahier de charge du médecin directeur avant de lui poser une autre quelconque question.
De Kayanza, cap sur la province voisine de Ngozi, où les commerçants qui exercent au marché de la commune Kiremba sont mécontents. C'est à cause du manque de latrines dans ce marché. Ceux qui étaient là avant ont été transformés en bistrot. Ces commerçants demandent à ce que ces latrines soient reconstruites pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions hygiéniques. Le point avec Joséphine Jones-Hunzimana.
Les propriétaires des stands du marché de la commune de Kilemba et leurs clients sont en pleine difficulté de trouver des lieux d'aisance. Cette personne en besoin doit chercher dans des ménages qui sont aux alentours du marché de Kilemba ou dans des bars environnants. Selon nos sources à Kilemba, Dongodi, la place où s'étaient érigées des toilettes publiques a été vendue par l'administration locale. Bouchant les toilettes, un bistrot y a été ouvert. L'administrateur de Kilemba, Pascal Sevigo, est pointé du doigt dans l'affaire. Des commerçants de ce marché et leurs clients disent être inquiets et regrettent de voir une place réservée aux toilettes publiques changer en cabaret. Ils craignent des maladies, des mains sales qui peuvent les attaquer.
Nous n'avons pas de latrine dans ce marché. Celles qui avaient été construites ont été bouchées. Et le comble de malheur, l'endroit a été transformé en bistrot sous l'autorisation de l'administrateur communal. Nous craignons pour notre santé. Non seulement nous n'avons pas de latrine, mais aussi nous risquons d'attraper les maladies des mains sales. Nous demandons que ces toilettes soient encore une fois installées pour le bien-être de la population qui fréquente ce marché.
Ces habitants demandent que ces toilettes publiques soient réouvertes pour l'intérêt de leur santé. La rédaction de la radio Inzamba a essayé de contacter l'administrateur de la commune Kilemba pour qu'il nous éclaire sur la situation, mais sans succès.
Inzamba.
Les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en République unie de Tanzanie sont inquiets par rapport à une enquête que les autorités tanzaniennes sont en train de mener dans ce camp. Ceux qui sont concernés se trouvent sur une liste préétablie. Ils ont peur que le rapport de l'enquête viserait à les rapatrier contre leur gré. Les détails avec Pierre Garungu.
Les inquiétudes de ces réfugiés sont fondées sur le fait que l'enquête concerne une catégorie de réfugiés inscrits sur une liste préétablie. Plusieurs questions, dont celles concernant ce qu'ils feraient en cas de fermeture du camp, sont posées aux réfugiés. Suivez ce témoignage.
Ils ont établi des listes. On demande à chacun ce qu'il a fui, pourquoi il ne veut pas rentrer, pourquoi il s'est exilé. Le problème qui est là est eu au Burundi. S'il y a encore des familles qui sont encore au Burundi, est-ce que vous communiquez avec eux? Par quelle voie? Les avoirs que vous avez laissés au Burundi sont gardés par qui? Qu'est-ce qui t'empêche de retourner au Burundi? Qu'est-ce que tu ferais si l'État tanzanien décidait de fermer le camp?
Ils ont peur que les résultats de l'enquête ne soient manipulés en faveur du rapatriement.
Nous avons peur que les résultats de l'enquête ne soient falsifiés selon leurs tendances. Et comme ça, ils diront que ce sont les réfugiés qui ont réclamé le rapatriement.
Vous saurez que la même enquête concerne aussi le camp de Douta, toujours en Tanzanie. Cette situation a suscité les réactions des défenseurs des droits des réfugiés qui n'ont cessé de demander au gouvernement tanzanien de respecter le droit des réfugiés. Car à maintes reprises, les réfugiés burundais en exil en Tanzanie sont en permanence la cible de toutes sortes de violations.
Le camp de Mulongwe en RDC, certains réfugiés burundais qui s'étaient rapatriés volontairement ont repris le chemin de l'exil vers ce camp. Ces réfugiés disent qu'ils ont été malmenés dans leur province d'origine. Les détails avec Alexandre Niungeku.
Ce sont une quarantaine de réfugiés burundais. Ils étaient rapatriés volontairement suite à la paix lancée par les membres de leur famille qui affirmaient que la paix règne dans le pays. Mais après 4 mois, ils sont retournés dans le camp de Mulongwe en République démocratique du Congo. Ces réfugiés burundais sont originaires des provinces Cibitoke, Kayanza et Muyinga. Une fois arrivés au Burundi, ils avaient reçu quelques vivres pour la subsistance et cela n'a duré que le temps d'une rosée. La menace des Imbonerakure a repris, surtout pour ceux de la province de Cibitoke, et ils ont été obligés de rebrousser chemin également par manque d'assistance ni de l'administration locale ni du Haut Commissariat pour les réfugiés.
Nous sommes rentrés parce que nos proches nous ont rassurés que la paix règne dans le pays. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé que la réalité était tout autre. Ils nous ont donné quelques vivres pour la subsistance, mais cela n'a pas duré. Et la souffrance a commencé. Nous nous sommes posé la question, quoi faire? Je me suis dit, rester au Burundi, il n'y a pas de travail. Ceux qui m'ont poussé à reprendre le chemin de l'exil n'ont pas tardé de réapparaître pour me menacer alors qu'il ne me restait plus rien comme provision. C'est ainsi que je me suis décidé de retourner au Congo où j'étais installé comme réfugié.
Vous saurez que le président de la République, Évariste Ndayishimiye, dans son discours à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance, avait lancé un appel aux réfugiés burundais de rentrer. Il y promettait un accueil chaleureux et une assistance pour subvenir à leurs besoins.
Merci Alexandre Nyongeko et c'est par là que nous mettons un point final à ce journal. Merci pour votre fidélité à la radio Inzamba Gatekakawe. Au revoir et à la prochaine.